Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous pourrions intituler la messe d'aujourd'hui « Hymne à la miséricorde de Dieu ». En effet, tous les textes de la liturgie d'aujourd'hui chantent la miséricorde de Dieu à l'égard des hommes. Cette miséricorde, nous lui demandons dans la collecte de la multiplier sur nous, afin que dirigés et guidés par lui, nous passions au milieu des biens temporels sans perdre les éternels. D'où vient cette miséricorde ? Du Sacré-Cœur de Jésus. Dieu a voulu en effet que le cœur de son Fils unique fût ouvert par la lance du soldat, nous dit la préface de la messe du Sacré-Cœur, et répandit sur nous des torrents de miséricorde et de grâce. Le genre humain tout entier et l'Église ont un besoin urgent de la miséricorde divine pour se libérer des chaînes sataniques qui les conduisent vers le monde sans Dieu, sans amour et sans liberté que veulent construire les mondialistes. Pressentant ces temps apocalyptiques, le pape Léon XIII consacra le 11 juin 1899 le genre humain au Sacré-Cœur de Jésus. Voici, dit-il, qu'aujourd'hui, un nouveau signe s'offre à nos yeux, signe d'espoir, signe tout divin, le Sacré-Cœur, tout rayonnant au milieu des flammes. C'est là qu'il faut mettre toutes nos espérances, là qu'il faut demander, là qu'il faut attendre le salut. Les invocations des litanies du Sacré-Cœur le qualifient de fournaise ardente de charité, plein d'amour et de bonté, dont la plénitude se répand sur nous tous. L'amour de Dieu à notre égard est un amour miséricordieux. Alors voyons cela dans un premier point. Plusieurs fois dans l'Évangile, Jésus nous a révélé son cœur miséricordieux, c'est-à-dire le cœur qui compatit à la souffrance, à la misère d'autrui, et, enflammé de zèle, lui porte secours. L'Évangile d'aujourd'hui nous donne l'exemple de la brebis perdue que le Seigneur va chercher et rapporte tout joyeux sur ses épaules. Les brebis perdues sont nombreuses aujourd'hui, une multitude d'hommes vivant dans le péché sans connaître Dieu. Les mauvais chrétiens qui tombent fréquemment dans les péchés graves. Les sociétés, les nations qui vivent selon des principes contraires aux lois divines et se détruisent elles-mêmes. Notre Seigneur nous a illustré cet amour miséricordieux de Dieu par les paroles de l'enfant prodigue et du bon samaritain. Dans la parabole de l'enfant prodigue, il nous montre la nature de cet amour dont Dieu nous aime. C'est un amour paternel, un amour de père. Saint Paul, à qui a été donnée la grâce d'annoncer l'insondable richesse du Christ, de mettre en lumière le plan de ce mystère d'amour tenu caché depuis les origines, nous dit que toute paternité ici-bas tire son nom de notre Père des cieux. En prenant quelques exemples de paternité ici-bas, nous aurons un reflet, peut-être pâle, mais un reflet tout de même de la paternité de Dieu et un reflet réel. Quand on dit que quelqu'un est le père d'un projet, cela signifie qu'il a conçu ce projet dans sa pensée et qu'il a donné les premières impulsions à sa réalisation. On pourrait multiplier les exemples, mais l'exemple le plus parlant et qui laisse le plus d'empreintes est la paternité de la génération. Notre Seigneur lui-même prend cet exemple dans les révélations qu'il fait à sœur Josefa Menendez, religieuse de la Société du Sacré-Cœur à Poitiers en 1923. Voici ce qu'il dit. « Lorsque tu me donnes le nom de Père, Mon cœur s'oblige à prendre soin de toi. Ici-bas, quand l'enfant commence à parler et prononce ce mot si tendre, Père, ses parents débordent de joie. Ils lui ouvrent leurs bras et le serrent sur leur cœur avec un tel amour que tous les plaisirs du monde ne sont rien auprès de ce bonheur. S'il en est ainsi d'un père ou d'une mère de la terre, qu'en sera-t-il de celui qui est à la fois père, mère, Dieu, créateur, sauveur, époux? Dieu résume en lui-même tous ses amours. Qu'en sera-t-il de celui dont le cœur n'a point d'égal en tendresse et en amour? Qu'y a-t-il de plus indigent, de plus faible qu'un petit bébé? Il a reçu la vie, mais il est incapable de la conserver par lui-même. Par contre, il jouit du titre de fils, et ce titre oblige ses parents à prendre soin de lui, à pourvoir à tous ses besoins, nourriture, santé, vêtements, éducation, instruction, pour le conduire à sa destinée d'homme. Ils le font avec un grand amour, source de leur dévouement. Le rapport qui existe entre un enfant et ses parents est encore plus grand entre Dieu et nous. Par le baptême, nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous avons reçu l'esprit d'adoption, nous dit saint Paul, qui nous fait crier « Abba, Père ». De même que le titre de fils oblige nos parents, selon la chair, à prendre soin de nous avec amour pour nous conduire à notre destinée terrestre, de même le titre de fils adoptif de Dieu oblige Dieu à prendre soin de nous avec un amour infini pour nous conduire à notre destinée surnaturelle. Concernant la parenté selon la chair, il peut y avoir des imperfections, des défauts. Mais il n'y en a pas concernant la paternité surnaturelle. Dieu est parfait. Le défaut ne peut venir que de nous, parce que, en nous créant, Dieu nous a laissé la liberté. L'amour de Dieu qui se penche vers sa créature pour la guérir, lui donner la vie en plénitude, ne se laisse rebuter par rien. Il n'est pas comme l'amour humain. Il ne se laisse rebuter ni par la misère de sa créature, ni par ses péchés, pas même par son opposition obstinée. Cet amour est illustré par la parabole du bon samaritain. Le bon samaritain, c'est le Fils de Dieu, le Verbe qui est descendu du ciel, descendu de la Jérusalem céleste. Il s'est incarné dans le sein de la Vierge Marie. Il est Dieu et vrai homme, vrai Dieu et vrai homme. Il a vécu ici-bas en faisant le bien au corps et aux âmes. Lui qui n'avait répandu que l'amour, il fut victime de la haine. Lui qui venait rendre la liberté aux hommes, il fut emprisonné, lié, maltraité, calomnié et mourut sur une croix entre deux voleurs, méprisé, délaissé, pauvre et dépouillé de tout. C'est ainsi qu'il a accompli sa mission de rédempteur, rendant la vie à l'homme et lui méritant les forces et les moyens nécessaires pour acquérir ici-bas le trésor de la vie éternelle. Ces forces et ces moyens qu'il nous a acquis, ils sont en réserve dans l'hôtellerie de la parabole, c'est-à-dire dans l'Église, cette Église qui est sortie de son cœur ouvert par la lance du soldat. L'amour du Sacré-Cœur de Jésus ne demande qu'à répandre sa plénitude sur nous tous. Alors, comment allons-nous y répondre? C'est l'objet de ce deuxième point. En nous consacrant à ce Sacré-Cœur, qu'est-ce que cela veut dire? Ce mot est passé dans notre langage courant quand nous disons que nous allons consacrer tout notre temps à un travail. Cela signifie que nous allons laisser toutes les autres choses non indispensables et utiliser toutes nos forces, nos capacités pour réaliser ce travail précis. Se consacrer au Sacré-Cœur de Jésus, c'est engager toute notre personne avec ses capacités au service de Jésus. C'est réaliser dans la pratique quotidienne le premier commandement de Dieu, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toutes tes forces. » Comment cela va-t-il se traduire dans notre vie quotidienne ? Pas par des choses extraordinaires, mais en conformant notre vie, c'est-à-dire nos pensées, nos affections, nos actions, à la volonté divine. Et cela implique de multiples renoncements et sacrifices. Il ne suffit pas d'éviter les péchés graves, mais de chercher à plaire au Sacré-Cœur en renonçant aux péchés véniels, en combattant nos imperfections et en nous efforçant de tout faire dans nos différents devoirs d'État par amour pour le Sacré-Cœur. Un jour que Josefa Menéndez se hâtait pour aller accomplir une tâche de ménage, notre Seigneur lui apparut et lui dit « Où vas-tu, Josefa ?» Et elle, de lui donner l'explication naturelle, « Je vais faire le ménage de tel couloir dans la communauté. »« Non, Josefa, lui répondit Jésus, tu vas à l'amour. » Cela est très profond. En accomplissant par obéissance les travaux les plus ordinaires, nous accomplissons la volonté de Dieu. Et donc, nous pratiquons l'amour de Dieu d'une manière concrète, si du moins nous le faisons avec recueillement. Jésus nous ne demande pas l'impossible. Il sait que nous sommes remplis de misère, d'impuissance, de petitesse, d'étroitesse. Mais lui, il possède tous les trésors. Il veut nous enrichir de ses dons. Il ne demande que notre bonne volonté et une confiance totale en lui. Cette transformation que le Sacré-Cœur veut accomplir dans nos âmes, il veut l'accomplir également dans la société civile, en commençant par la France. La volonté du Sacré-Cœur n'a pas changé depuis les révélations faites à Sainte Marguerite Marie. Voici ce qu'il dit à ce sujet à Sœur Josepha en 1923. « Je veux régner sur les âmes, sur les nations et sur le monde entier. Je veux répandre ma paix jusqu'aux extrémités du monde, mais d'une manière spéciale sur cette terre bénie, berceau de la dévotion de mon cœur. » Cette terre bénie, c'est la France. C'est là qu'a commencé la dévotion au Sacré-Cœur. « Oui, je veux être sa paix, sa vie, son roi. Je régnerai. » Et cette déclaration fait suite à la révélation du même Sacré-Cœur faite le 21 juin 1823 à Sœur Marie de Jésus. « Je prépare à la France un déluge de grâce, quand elle sera consacrée à mon divin cœur. Toute la terre se ressentira des bénédictions que je répandrai sur elle. » Elle est la fille aînée de l'Église. « La foi et la religion refleuriront en France par mon divin cœur. » Vous me direz peut-être, mais nous sommes à l'heure du mondialisme, des satanistes manifestent pour activer cette venue du mondialisme. Alors, tout semble perdu. Notre Seigneur connaît mieux que nous l'état de la société et du monde. Voici l'état qu'il en dresse en 1923 à Sœur Josepha. Si le monde et la société sont remplis de haine, de lutte continuelle, peuple contre peuple, nation contre nation, individu contre individu, c'est que le grand fondement de la foi a presque entièrement disparu. que la foi se ranime et la paix reviendra et la charité régnera. La foi ne nuit pas à la civilisation, ne s'oppose pas au progrès. Au contraire, plus la foi est enracinée dans les individus et dans les peuples, plus grandissent en eux la sagesse et la science, car Dieu est sagesse et science infinie. Mais là où la foi n'est plus, la paix disparaît, et avec elle la civilisation, la culture et le vrai progrès. C'est ce que nous constatons aujourd'hui. N'est-ce pas le cœur de Jésus, trésor de la sagesse et de la science, qui parle ici? Son sacré cœur renferme tout ce qu'il faut pour guérir la société et la gouverner par des lois sages et équitables qui faciliteront le salut des individus. Puisque le fondement est la foi, eh bien, poursuivons avec persévérance à mener ce bon combat de la foi. Comme saint Pierre nous le recommande dans l'épître de la messe d'aujourd'hui, veillez parce que le démon, votre adversaire, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche une proie à dévorer. Résistez-lui en restant ferme dans votre foi. Alors, vivons notre consécration au Sacré-Cœur de Jésus, formons-lui une garde continuelle avec nos cœurs reconnaissants. Alors, nous hâterons le règne de son Sacré-Cœur. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie, à son cœur immaculé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit,